Introduction de Christopher Tolkien. Celui qui se voit confier la responsabilité des écrits laissés par un auteur mort est confronté à des problèmes difficiles à résoudre. Certains, dans cette position, peuvent choisir de ne rien livrer du tout à la publication, hors peut-être quelque œuvre quasiment terminée du vivant de l'auteur. Ce choix touchant les écrits inédits de John Ronald Reuel Tolkien pourrait se justifier au moins à première vue, car singulièrement critique et exigeant à l'égard de son propre travail, il n'aurait jamais songé à autoriser la publication des récits, même les plus achevés, qui forment ce recueil, sans les avoir abondamment retravaillés. Cependant, il m'a paru que la nature et la portée de son invention conféraient à ces récits, même abandonnés, un statut particulier. Que le Silmarillion restât ignoré était pour moi impensable, et ce malgré son état chaotique, et malgré les intentions bien avérées de mon père concernant son remaniement, intention dans une large part non réalisée. Et en l'occurrence, après de longues hésitations, je pris sur moi de présenter l'œuvre, non pas sous la forme d'une étude historique, un réseau de textes divergents reliés entre eux par un commentaire, mais comme une entité parachevée et en elle-même cohérente. Sans doute les récits du présent ouvrage se situent-ils sur un tout autre plan. Envisagés dans leur ensemble, ils ne constituent pas un tout, et le livre n'est guère qu'un recueil de textes disparates quant à la forme, le dessin, le degré d'achèvement et la date de composition, et quant au traitement que je leur ai fait subir, où il est question de Nouménor et de la Terre du Milieu. Mais l'argument en faveur de leur publication, s'il est de moindre poids, n'est pas différent par nature de celui invoqué pour motiver la parution du Silmarillion. Tous ceux qui n'auraient pas renoncé volontiers à certaines images, à Melkor et Ungoliant, contemplant depuis les cimes du Yarmentir les champs et les pâturages de Yavanna qui chatoyaient comme de l'or sous les hauts blés des dieux, à la grande ombre portée par l'armée de Fingolfin sous la lune à son premier lever dans l'ouest, à Beren rôdant sous l'apparence d'un loup près du trône de Morgoth, à l'éclat du Silmaril qui apparaît soudain dans les ombres de la forêt de Neldoreth, ceux-là trouveront, j'en suis certain, que les imperfections d'ordre purement formel sont amplement compensées par la voix, que l'on entend ici pour la dernière fois, de Gandalf taquinant Saruman dans sa superbe à la réunion du Conseil Blanc en l'année 2851. Ou à Minas Tirith, au lendemain de la guerre de l'Anneau, ce même Gandalf racontant comment il en vint à envoyer les nains au fameux festin à cul-de-sac. Par la vision d'Ulmo, seigneur des eaux, surgissant de la mer à Vinyamar. Ou celle de Mablung du Doriath, se mussant comme un campagnol dans les ruines du pont de Nargothrond. Ou encore par le trépas d'Isildur, au moment où il se dresse titubant hors des flots limoneux de l'Anduin. Nombre des récits qui figurent dans ce recueil sont l'élaboration de faits relatés plus brièvement ou au moins évoqués ailleurs. Et il faut préciser d'emblée que risquent fort d'être déçus ceux des lecteurs du Seigneur des Anneaux pour qui la structure historique de la Terre du Milieu est un moyen, non une fin, un mode narratif et non le but même de la narration, et qui n'éprouve nulle envie de pousser plus loin l'exploration en soi, se souciant fort peu d'apprendre comment sont organisés les cavaliers de la marche au Rohan ou de s'enquérir des hommes sauvages de la forêt de Droidan. Et mon père ne les aurait certes pas désapprouvés. Lui qui, dans une lettre datant de mars 1955, peu avant la publication du troisième volume du Seigneur des Anneaux, écrit « Comme j'aimerais à présent ne jamais avoir promis d'appendice, car je pense que leur publication, sous une forme tronquée et abrégée, ne satisfera personne, et certainement pas moi. Visiblement pas, non plus, à voir les lettres que je reçois, en quantité effroyable, les gens qui aiment ce genre de choses, étonnamment nombreux. Tandis que ceux qui apprécient ce livre seulement comme un romance héroïque et perçoivent les aperçus inexpliqués comme faisant partie de l'effet littéraire, ceux-là ne prêteront pas attention aux appendices et à juste titre. Je ne suis plus sûr du tout désormais que la tendance à traiter le tout comme une sorte de vaste jeu soit une très bonne chose. Certainement pas pour moi, qui suis trop fatalement attiré par ce genre de choses. C'est, je suppose, un hommage au curieux effet que produit l'histoire quand elle est construite sur un travail très élaboré et détaillé de sa géographie, de sa chronologie et de ses langues que tant de personnes réclament à cor et à cri de l'information brute, du savoir. Et dans une lettre datée de l'année suivante, il écrit « Beaucoup réclament comme vous des cartes. D'autres veulent des indications sur la géologie plutôt que sur les lieux. Beaucoup veulent des grammaires et phonologies elfiques et des exemples. Certains veulent de la métrique et de la prosodie. Les musiciens veulent des mélodies et une notation musicale. Les archéologues veulent des précisions sur la céramique et la métallurgie. Les botanistes veulent une description plus précise des Malorne, Elanor, Nifredil, Alphirine, Malos et Cymbelminé. Et les historiens veulent davantage de détails sur la structure sociale et politique du Gondor. Ceux qui ont des questions plus générales veulent des informations sur les Chariotiers, le Harad, les origines des nains, les morts, les Béorniens et les deux magiciens sur cinq. » Mais quel que soit le point de vue adopté, certains, et je suis de ceux-là, trouveront une valeur autre que celle d'un simple dévoilement de détails curieux au fait d'apprendre que Véantour, le Nouménoréen, amena son navire, l'Entoulessé, le Retour, au Havre gris à la faveur des vents de printemps, l'année 600 du deuxième âge. Que la tombe d'Elendil le Grand fut érigée au sommet de la colline des feux du Halifirienne. Que le cavalier noir entrevu par les hobbits à travers les brumes ténébreuses sur la berge opposée, au bac de Fertebouk, était Camul, le spectre de l'anneau aux commandes de Dol Guldur. Ou même que l'absence de descendance de Taranon, 12e roi du Gondor, un fait noté également dans les appendices du Seigneur des Anneaux, était lié au chat, jusqu'alors parfaitement mystérieux, de la reine Beluthiel. Composer ce livre fut difficile, et le résultat présente une certaine complexité. Les récits sont tous inachevés, mais à des degrés divers et des sens divers du mot, et ils ont requis un travail d'édition différent. Plus loin, je donne quelques indications sur chacun d'eux, mais je voudrais attirer ici l'attention sur quelques traits plus généraux. Le plus important est la question de la cohérence, qui illustre de manière privilégiée l'histoire de Galadriel et Celeborn. Il s'agit là d'un conte inachevé au sens large, non point un récit qui s'interrompt abruptement, comme c'est le cas pour « De Tuor et de sa venue à Gondolin », ni une série de fragments comme « Kirion et Eorl », mais un récit qui, s'il apporte un fil essentiel à la trame historique de la Terre du Milieu, n'a jamais reçu sa construction définitive, et moins encore une écriture parachevée. L'inclusion de récits et d'ébauches inédits sur ce sujet implique dès lors que l'on accepte d'emblée le récit historique non pas comme une réalité fixe et préexistante, que l'auteur, en sa qualité de traducteur et de rédacteur, ne fait que rapporter, mais comme une conception imaginaire mouvante et en pleine évolution dans son esprit. Dès l'instant où l'auteur a cessé de publier lui-même ses œuvres, les soumettant au préalable à son propre regard critique et jugement comparatif, toute connaissance plus poussée de la Terre du Milieu que l'on puisera dans ses écrits, restée inédite, se trouvera souvent en contradiction avec ce que l'on sait déjà. Et en l'occurrence, les nouveaux matériaux insérés dans l'édifice existant contribueront moins à l'histoire de ce monde imaginaire qu'à celle du processus imaginaire en lui-même. Dans ce recueil, j'ai accepté d'entrée de jeu qu'il en soit ainsi. Et sauf pour quelques détails mineurs, telles les modifications de nomenclature, là où conserver le manuscrit tel quel aurait créé des confusions disproportionnées exigeant des mises au point tout aussi disproportionnées, je n'ai fait aucun changement qui aurait tendu uniquement à assurer la cohérence de l'ouvrage au regard des œuvres publiées, mais au contraire, je me suis attaché à mettre en lumière, tout au long des récits, les contradictions et les variantes. À cet égard, les contes et légendes inachevées diffèrent pour l'essentiel du Silmarillion, où le but premier, encore que non exclusif, du travail d'édition avait été d'obtenir une cohérence, tant externe qu'interne. Et sauf en quelques cas précis, j'ai traité la version publiée du Silmarillion comme référence exactement au même titre que les écrits dont mon père avait lui-même assuré une parution, sans tenir compte des innombrables choix non autorisés entre des variantes et des versions rivales qui ont concouru à son élaboration. Par son contenu, le présent ouvrage est entièrement narratif ou descriptif. J'ai écarté tous les écrits qui avaient une dimension plus philosophique ou spéculative, touchant Aman et la Terre du Milieu, et là où ces matières sont abordées, j'ai coupé court à leur développement. J'ai donné au texte une structure de pure commodité, fondée sur une division en parties correspondant aux trois âges du monde, d'où bien entendu quelques chevauchements, comme c'est le cas pour la légende d'Amroth, qui figure dans l'histoire de Galadriel et Celeborn. La quatrième partie est une annexe, et elle peut exiger qu'on s'en explique dans un ouvrage intitulé « Contes et légendes inachevées », car les morceaux qui la composent sont des études de portée générale et de caractère discursif, d'où l'élément narratif est quasiment absent. De fait, la section sur les Druedain doit originairement son inclusion au Conte de la Pierre Fidèle, qui en est un fragment, et cette section m'a incité à introduire celle sur les Istari et sur les Palantiri, sujet pour lesquels bien des gens ont manifesté de la curiosité, et ce livre m'apparaissait comme le bon endroit où exposer tout ce qu'il y avait à en dire. On trouvera que les notes poussent, à l'occasion, un peu dru, mais on s'apercevra que là où elles sont le plus foisonnantes, comme dans le désastre des champs de flambe, elles sont le fait moins de l'éditeur que de l'auteur, qui, dans ses œuvres tardives, avait tendance à travailler de cette manière, menant plusieurs sujets de front au moyen d'un lacis serré de notes. D'un bout à l'autre du livre, je me suis efforcé de bien mettre en évidence ce qui relevait du travail d'édition et de le distinguer du reste. En raison de cette abondance de matériaux inédits présents dans les notes et les appendices, j'ai estimé qu'il serait plus judicieux de ne pas restreindre au texte seulement les références de pages données dans l'index, mais plutôt de couvrir l'intégralité de l'ouvrage, à l'exception de cette introduction. J'ai constamment tenu pour acquis, chez le lecteur, une bonne connaissance de l'œuvre publiée de mon père, et plus particulièrement du Seigneur des Anneaux, car sinon il m'eût fallu grossir considérablement l'appareil critique que d'aucuns trouveront déjà fourni. J'ai néanmoins donné de brèves définitions pour presque toutes les entrées importantes de l'index, dans l'espoir d'éviter au lecteur d'avoir à chercher ailleurs. Si mes explications demeurent insuffisantes ou involontairement obscures, le lecteur consultera avec fruit l'ouvrage de M. Robert Foster, The Complete Guide to Middle-earth, qui constitue, je l'ai découvert à l'usage, un admirable ouvrage de référence. Les références au Silmarillion renvoient à l'édition française, Christian Bourgois, éditeur, 2021, et celle qui intéresse le Seigneur des Anneaux porte indication du volume, du livre et du chapitre, voire l'édition française chez le même éditeur. Suivent à présent des indications d'ordre essentiellement bibliographiques sur chaque texte.